Le suicide de Cléopâtre qui préfère se donner la mort plutôt que d'être humilié dans la parade triomphale de Octave, c'est un thème récurrent dans l'histoire de l'art, Frédéric Mougenot. Pourquoi avoir choisi cette sculpture que vous nous présentez ?
On a choisi une sculpture du XVIIe siècle pour montrer que l'épisode légendaire du suicide de Cléopâtre est représenté sous toute forme d'art connu à l'époque, de la peinture, la sculpture, des objets d'art que vous avez dans une vitrine derrière vous. Et cette histoire apparaît dans l'art occidental depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours.
Mais la statue qu'on a sous les yeux est presque ambiguë, non ?
Oui. Ses yeux sont à moitié révulsés, elle a la tête renversée en arrière, la bouche est entrouverte, ce qui est censé être une représentation de la femme à l'instant de sa mort. Et en même temps, il se dégage une image également du plaisir sensuel, du plaisir sexuel, qui se mêle toujours dans les représentations de Cléopâtre en Occident, depuis la Renaissance, depuis le XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Puisque pour les artistes chrétiens, l'histoire du suicide de Cléopâtre est un bon prétexte pour représenter la chair de la femme dénudée, pour la condamner, bien sûr, et en même temps, pour assouvir une espèce de fantasme voyeuriste que l'histoire autorise, puisque c'est l'histoire ancienne, donc tout à fait respectable. L'Occident a gardé de Cléopâtre le souvenir d'une reine sulfureuse, lubrique, une réputation noire que les Romains lui avaient faite. Et ce qui est intéressant, c'est que les historiens du monde arabe n'ont pas du tout gardé la même image de Cléopâtre, en se souvenant de Cléopâtre comme d'une reine savante, une alchimiste, l'auteur de traités de pharmacologie et de médecine, et une bâtisseuse. Et vous pouvez voir à côté les bains de Cléopâtre à Assouan, ou les aiguilles de Cléopâtre, ces obélisques qui se dressaient à Alexandrie.